Bon, alors, bon, du coup, on se présente. Donc, Cédric Bondona, Sophie Bondona. Mais moi, mon nom d'auteur, c'est Sophie Baru, c'est mon nom de jeune fille. Voilà, donc on a écrit un livre il y a une vingtaine, non, dizaine d'années. Oh, je sais même plus. Ouais, bah, bref, peu importe. Qui est retranscrit un petit peu les 20 ans qui ont suivi l'accident de Cédric. Et voilà, donc on a plaisir à témoigner de notre parcours parce que on se dit que voilà, quand on a une épreuve terrible, qui se voit ou pas, hein, parce que parfois on a des épreuves qui se voient moins, qui sont moins flagrantes que celles d'un handicap, il y a toujours moyen de rebondir en s'appuyant sur des. Voilà, des valeurs qui nous ont aidés, nous, en tout cas, des idées fortes. Et voilà, et ça nous fait plaisir de pouvoir les transmettre, parce que moi, au moment où l'accident de Cédric est arrivé, enfin, c'était comme une hécatombe et je me raccrochais à des histoires un peu voilà, qui pouvaient m'aider à avancer, à croire en un avenir possible. Voilà, donc alors Cédric, en fait, a eu un accident de la route en 98, donc il y a longtemps. Bientôt 20 ans, 18 ans.
Bientôt 30.
C'est ça? 30? Ah oui, même 30,
98.
non? Ah, mais oui,
Dans
ben
2 ans,
là.
ça fera 30 ans
Je suis
aussi.
perdue dans les
Oui,
dates.
je veux bon.
D'où les cheveux blancs. Voilà. Et on était mariés depuis 8 mois, donc c'était un peu inattendu, on va dire. Et c'était un accident de vélo contre une voiture. Donc à l'époque, on habitait à Saint-Étienne et c'était au-dessus, vers Montbrison. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu donc écrire ce livre? C'est pour plusieurs choses. Donc déjà l'idée de transmettre voilà cette espérance qui nous a porté. C'est aussi le fait que un jour un journaliste est venu à la maison et puis nous a posé pas mal de questions sur l'accident. C'était quand même déjà vieux. Donc moi je me suis replongée dans un journal intime que je tenais à l'époque parce que depuis là. Le collège, je tenais un journal et au moment de l'accident, ça m'a beaucoup aidé à coucher mes émotions, à bien là, identifier les étapes, avoir un regard un peu objectif sur tout ce que je traversais. Et donc, j'ai réouvert ce journal que j'avais fermé 10 ans avant. Et en relisant cette histoire, j'ai vu combien, en fait, le bon Dieu ne nous lâchait jamais. En fait, même quand on allait très très bas, il y a toujours une rencontre, un livre, quelque chose qui nous a voilà, fait rebondir. Et j'avais envie de témoigner de ça, voilà, du fait que le bon Dieu n'évite pas forcément les épreuves, hein, il ne va pas les empêcher, on est libre, voilà, des choix qu'on pose. Hein, le conducteur qui a renversé Cédric, il avait bu 3 pastis avant de prendre le volant, et c'était dans une route de montagne un peu sinueuse, il y avait des gravier à gauche, à droite. Donc tous les deux étaient un peu au milieu. Toi, t'allais vite, t'avais pas de casque non plus. Enfin, voilà. C'est une série de choix posés qui fait état de notre liberté. Le bon Dieu ne va pas intervenir forcément dans ces choses-là. En revanche, ce qu'il nous promet, c'est de jamais nous abandonner dans l'épreuve. Et ça, je peux dire qu'on l'a expérimenté. Voilà. Combien est-ce qu'on a pu le vivre avec lui? Ce qui n'a pas empêché des moments de désespoir, enfin, de désespoir, de difficultés profondes. Mais que ça ne durait jamais. Voilà. Et puis aussi, à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, donc c'était en 2018, si je ne me trompe pas, 20 ans après, ouais, c'est ça. C'était au moment des attentats de Paris. Et on disait beaucoup, donc c'était Charlie Hebdo, tout ça. Et on disait beaucoup que la religion, c'était l'obscurantisme, que c'était vecteur de violence, qu'il fallait remettre ça au placard. Et moi, ça, je pouvais pas l'entendre. Je trouvais ça insupportable comme discours parce que je me disais, moi, ma foi, ma religion, elle m'a tellement aidée, voilà, à choisir la vie, puisque c'est un peu le thème, et à avoir les moyens, d'y arriver. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je me suis sentie vraiment le devoir de transmettre ça. Du coup, j'ai repris les pages de mon journal intime. J'en ai enlevé pas mal. Hein. J'ai remanié un peu tout ça et ça a donné ce livre. Je rentrerai avant la nuit. Donc le titre, c'est la dernière phrase que Cédric a dite avant d'avoir son accident. Donc la dernière phrase que j'ai entendue de mon mari debout ce 21 mai 98. où il m'expliquait, parce qu'en fait, il était travaillait toute la journée. C'était un jeudi de l'Ascension. Et il bossait dans un parc touristique. Il faisait des maquettes de bâtiments historiques. Et en fait, il est parti ce soir-là en me disant un peu son itinéraire et en me disant, ne t'inquiète pas, je rentrerai avant la nuit. Et la nuit est tombée ce soir-là. Il n'est pas rentré. Et voilà, tout, ma vie a basculé, la sienne aussi. Et on a retenu cette phrase, je rentrerai avant la nuit, parce qu'elle résonne comme une promesse que quelque part il a tenue. En fait, que l'angoisse, la nuit de l'angoisse et du désespoir ne nous sont jamais happés entièrement. Voilà. Alors, je vais juste vous lire un petit passage du livre pour que vous compreniez. Si nous avions su il y a 20 ans toutes les batailles qui nous attendaient, nos nuits sans sommeil, notre énergie dépensée, notre travail remis 100 fois sur le métier, nous serions peut-être tombés d'épuisement avant même de commencer, mais nous aurions surtout sauté de joie en voyant quel cadeau la vie nous réservait et quelle belle victoire nous allions remporter. Si nous avions pu voir où ce combat allait nous mener, nous l'aurions sans doute remporté avec plus d'ardeur et de force encore. C'est cette ardeur, c'est cette force que j'aimerais transmettre maintenant pour que jamais ne s'éteigne la petite flamme de l'espérance. Voilà, et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a plein de raisons de désespérer parce que la géopolitique est compliquée, la vie quotidienne est compliquée. Et voilà, et on est vraiment convaincu que l'espérance est ce qui fait avancer la confiance. Voilà. Alors, on va vous expliquer un petit peu d'où on vient pour que vous compreniez un peu nos parcours. Hop. Alors, moi, je vais commencer par moi. Tu diras. Alors, moi, je suis ici donc d'une famille catholique pratiquante. Voilà, j'ai grandi là-dedans. Et puis, à l'adolescence, en jeune adulte étudiante, j'ai commencé à m'éloigner un peu. J'ai fait une école d'art à Lyon pour être architecte d'intérieur. Puis là, il y avait la fête, les copains, que j'ai été pendant 20 ans, oui, architecte d'intérieur. Et là, je me suis un peu éloignée de Dieu jusqu'à ce que je rencontre un prêtre. Alors, juste avant de raconter cette histoire, sous la cendre brille le diamant. Voilà, c'est cette petite image que j'ai choisi de vous montrer. C'était une phrase que m'avait confiée une amie de ma grand-mère qui était un petit peu farfelue, mais que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Marcel. J'avais 10 ans et un jour, elle me prend dans une pièce à part et elle m'écrit ce petit mot sur ce papier. Elle me dit, toute ta vie, il faudra que tu le gardes et tu y penseras tout le temps. C'est très important. Et alors moi, à 10 ans, je ne voyais pas bien ce que ça signifiait. Et c'est vrai qu'au moment de l'accident de Cédric, ça a pris vraiment toute sa signification. C'est-à-dire que voilà, quand on a l'impression d'être devant un paysage de ruines, tout est en cendres, il faut avoir la conviction, même si on ne le ressent pas, même si c'est pas intuitif sur le moment, qu'un diamant peut naître de cette cendre. Voilà. Donc voilà, moi je grandis, je m'éloigne un peu du bon Dieu, je fais la fête, tout ça, et puis là je croise un prêtre un peu par hasard parce que j'avais arrêté de me confesser, mais là il se trouve que voilà une confession a été proposée, et ce prêtre me dit, enfin je lui expose un petit peu ma situation, donc j'étais avec un copain depuis 2 ans, et puis je sentais que c'était, on n'avait pas les mêmes valeurs, qu'on n'allait pas être heureux ensemble, mais bon voilà, c'était facile. J'étais plus amoureuse de l'amour que de lui, et j'avais du mal à me dégager de cette relation. Et il me dit deux phrases qui ont vraiment changé ma vie. Il me dit est-ce que vous êtes en communion de cœur avec ce garçon? Et ce mot communion de cœur m'a vraiment fait voir que non, pas du tout. Je n'étais pas en communion de cœur avec lui. Et il me dit Dieu vous appelle à des horizons plus larges. Et ça a fini en moi Eh ben, d'exploser toutes ces barrières que je m'étais mises qui m'empêchaient de le quitter. Et d'un coup, j'ai su que j'allais avoir la force, voilà, le courage de le quitter comme il faut pour pas le blesser trop. Et voilà, la séparation s'est mise en place. Et au moment où je l'ai quitté, j'étais vraiment dans cette position. Là, je vous montre l'illustration. Donc, on voit un moine là, qui ne veut pas lâcher une racine. Il a juste 10 cm de vide au-dessous de lui. Et puis, Dieu lui dit, me fais-tu confiance? Donc il répond oui, bien sûr. Alors je peux te sauver. Lâche cette branche, n'aie pas peur. Et lui, il a vraiment peur. Mon Dieu, au secours, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre là-haut? Voilà, parce que parfois on a l'impression de tout quitter et que ça va être voilà, la suite va être terrible. Et moi, quand j'ai quitté ce garçon, j'étais un peu dans cet état d'esprit à me dire, mais si c'est ça l'amour, c'est pas fait pour moi, je rencontrerai jamais personne, je serai célibataire toute ma vie, voilà. Et en fait, j'ai rencontré cet Eric 2 mois après, voilà. Et ça a été un coup de foudre radical. Et on s'est mariés, on s'est fiancés quelques mois après, on s'est mariés un an après. Donc voilà, le bon Dieu m'a pas laissé trop longtemps dans l'obscurité. Voilà, et puis alors Cédric, donc toi, ton parcours. Alors Cédric, il parle la voix chuchotée, donc c'est pas
Moi,
toujours simple.
je suis ma famille, une famille catholique du tout.
Donc il n'est pas sorti d'une famille catholique du tout.
Mais je peux être basé encore. Et par
Est-ce que vous
contre,
comprenez? Peut-être pas, hein. J'ai pas été baptisé enfant.
après la Pâque, je suis un cours de philo.
Et après la fac, tu as suivi un cours de
Avec des
philosophie
copains français.
avec des copains, c'était un cours du soir donné par une association. Et donc c'était toutes les semaines. Tu as commencé en septembre et en décembre, tu t'es converti. Voilà. C'est-à-dire que c'était un cours sur le phénomène de la connaissance vu par Aristote, Thomas d'Aquin, etc.
Quand on connaît Irène
Donc c'est un cours qui
Gêne,
explique comment on connaît les objets, la réalité qui nous entoure et en quoi le réel est premier dans le phénomène de la connaissance. Et ça pose la nécessité d'une âme, de quelque chose d'ordonné, d'une intelligence supérieure. Et de fil en aiguille,
non,
ça dure un an le
non,
cours, donc on va pas le résumer en 2 secondes,
non.
voilà. Mais toi, ça t'a retourné comme une crêpe, voilà. Parce qu'en fait, moi, je l'ai suivi après, quand je l'ai connu, il m'a dit, il faut absolument que tu suives le cours. Donc, je l'ai suivi. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point, voilà, c'est-à-dire que là, j'ai des lunettes en face de moi. Et en fait, c'est un cours qui explique comment est-ce que moi, cet objet, je peux le connaître, donc le nommer, l'envisager dans sa globalité, sans que rien de physique, aucune particule de cette lunette vienne en moi, ni aucune particule de moi vienne dans ces lunettes. Donc, on se rend compte que c'est autre chose que de l'ordre matériel. Et bon, voilà. Et après, il s'en dégage plein de conclusions, quoi, de
Moi,
déductions.
c'est déjà plus pragmatique.
Donc, on voit tous les présocratiques depuis les
Mais
Grecs, mais on ne va peut-être pas tout leur expliquer.
quand
Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cours qui propose plusieurs options. Donc, les cartésiens, les idéalistes, les matérialistes, etc. Donc, on balaye un peu toutes les opinions. Des gens sur cette notion de la connaissance qui est essentielle. Et donc, on comprend ben, du coup les courants politiques, on comprend mieux les idéologies du moment. Voilà. Et nous, on était issus d'une école d'art chacun. Hein, Cédric, il avait fait les arts plastiques, dans les arts appliqués. Et tous les deux, on avait des profs dont le discours, c'était que la vérité n'existe pas, qu'elle est inatteignable. Donc, le réel n'existe que parce que je projette sur le réel quelque chose. Donc c'est moi qui suis premier, et le réel c'est un support assez flou dont on ne peut rien dire. Et nous on a été élevés là-dedans, et en fait là ça a été une révélation de voir que pas du tout, voilà, que parfois certes nos sens nous trompent, mais c'est pas nos sens qui nous trompent, c'est le jugement que l'on a sur le résultat que nos sens nous apportent qui nous trompent en gros, si je peux dire. Mais qu'il y a vraiment un ordre dans les choses qui est immuable. Et voilà qu'il faut avoir confiance en ce réel qui est là pour nous élever, nous faire grandir, nous faire avancer. Et voilà. Et donc, en fait, c'est une révélation.
C'est un cours ou de faire encore.
Mais le cours, on ne va pas faire le cours ce soir. Mais voilà.
Mmh.
Donc, Cédric se convertit à l'âge de 22, 23 ans.
Mmh.
Donc, il demande le baptême, il se fait confirmer, catéchiser. Donc, ça a été gros clash avec ses parents qui, eux, étaient vraiment anticléricaux. Enfin, là, on a enregistré la radio. Enfin, je sais pas s'ils écoutent Radio Espérance. Non, enfin, ils me diront pas le contraire. Donc, c'est vrai qu'ils, voilà, ça a été compliqué pour eux et finalement, les ponts n'ont pas été coupés. Et voilà, ils ont accepté la conversion de leur fils. Et donc, pour Cédric, ça a été comme un coup de foudre. Hein. Il me disait, c'est comme si tu étais tombé amoureux. Voilà, la Vierge Marie avait une place hein, énorme pour lui. Voilà, et du coup, lui, pareil, de son côté, il a dû faire un peu le ménage dans ses histoires d'amour. Beaucoup de ménage.
Beaucoup
T'avais beaucoup de copines, c'est ça? Ah bon, il a dû voilà, régler un petit peu sa vie et il était dans le même état d'esprit que moi, à se dire, ben voilà, mon Dieu, je vous donne tout, mais qu'est-ce que vous allez faire de moi? Et donc, il me connaît, donc on se rencontre en septembre 95. Il faut dire qu'avant sa conversion, il était vraiment en recherche d'absolu, hein, Il a quand même traversé des phases un peu d'anorexie, hein.
C'est un peu pas vraiment.
Tu cherchais un peu partout, tout azimut, quoi. Un peu bouddhiste, un peu machin. Et toi, ce qui te stressait, c'est l'idée de l'éphémère des choses. Tu disais, à quoi ça sert de s'attacher à la vie puisque tout passe, voilà. Et ça, la philo a répondu à cette question. Donc voilà. Et donc on se rencontre, on se fiance, on se marie. Hop. Voilà. Ça a été très rapide. Alors attends, j'ai loupé mon truc. Non, ça ne met pas là. Si, voilà. Voilà. Donc du coup, on s'installe. Non, c'est pas toi, c'est une photo d'un cycliste. Mais... Ouais. Alors on s'installe donc en septembre 97. Dans un petit village au-dessus de Montbrison, là, près de Saint-Étienne, à la campagne. Et là, donc, Cédric, très, très sportif, hein, il courait pratiquement tous les jours. Tu prenais ton vélo dès que tu pouvais. Et là, donc, pour se défouler, comme chaque soir, il prend son vélo, il m'explique son chemin, son itinéraire. Il me dit, je rentrerai avant la nuit. Et là, la nuit tombe, il ne rentre pas. Je fais un tour en voiture, je ne le vois pas. Et puis moi, des drames, j'en avais jamais connu. Donc, je n'osais pas croire qu'il se passait quelque chose. Je me disais, il va rentrer, il a dû voir un copain. Et puis, je me décide quand même à appeler la gendarmerie qui me demande de le décrire parce qu'il n'avait pas ses papiers sur lui. Donc, je décris le vélo. Et voilà, il se trouve que c'était lui, qu'il était entre la vie et la mort à 1 kilomètre de la maison. Ils m'ont surtout dit de ne pas y aller, que l'hélicoptère du SAMU était sur place et qu'ils allaient me dire plus tard s'il fallait que j'aille le voir à la morgue ou en réanimation à l'hôpital Bellevue de Saint-Étienne. Voilà, donc ça a été vraiment radicalement... c'était comme une bombe hein, pour moi. Ma première réaction, ça a été de dire non, juste crier non en tournant dans mon salon parce qu'en fait, ça ne cadrait pas avec l'histoire. On était tout jeunes mariés, on avait plein de projets. On s'était un peu convertis tous les deux depuis peu, on confiait notre vie au bon Dieu, donc je ne comprenais pas, pour moi c'était irréel. Voilà, après avoir bien crié ma rage, ma colère, et un de ses amis est arrivé à la maison et m'a emmené au chevet de Cédric, donc c'est les pompiers donc l'avaient amené en réanimation, et là il a fallu que je le reconnaisse, donc... Il avait des tubes de partout, il était tout cabossé. En fait, il a percuté la voiture sur le capot, il a fait 26 mètres voilà, des vols planés, et il atterrit sur la tête. Donc, tout ça indique bien d'un traumatisme crânien. Donc, c'est des hématomes intracérébraux qui ont comprimé certaines zones du cerveau qui correspondent à des fonctions cognitives et physiques. Donc, il a des handicaps physiques, comme une hémiplégie, voilà, un problème de tonus du tronc, donc il peut pas marcher très longtemps. Quand il marche, c'est avec une aide d'un côté, puis une canne tripode de l'autre. Voilà, et puis des problèmes surtout de mémoire, d'initiative, d'élocution, de souffle. Voilà. Bon, il y a pas mal de petites choses. Ce qui fait que il a pas pu retravailler depuis. Et surtout, donc, il a été dans un coma d'emblée. Hein. Pardon ? Tu fais que ça, travailler ? Ouais. Parce qu'il fait beaucoup de poésie. Et, oui, tu n'es pas inactif, mais ce n'est pas salarié, quoi. Voilà. Donc, voilà. Le chauffeur, il avait 30 ans. Donc, il avait bu. Et donc, Cédric, pendant 2 mois, a été dans le coma, un coma profond. Et puis ensuite, il s'est réveillé petit à petit. Ça ne s'est pas fait en une fois. Il s'est réveillé sur plusieurs mois et au bout de 5 mois, il a pu lever le pouce. Et là, ça a été pour nous très important parce qu'on a pu faire défiler un alphabet devant ses yeux. Puis il a pu sélectionner des lettres et faire des phrases. Parce que tous les médecins disaient attention, il a eu un syndrome frontal. Donc quand on touche à l'avant, c'est toute la zone de la sociabilisation, de la retenue, etc. Donc on dit, mais si vous le faites parler, il va peut-être dire des gros mots, des insanités, voilà, le faites pas parler. Mais moi, je voyais dans ses yeux, parce qu'avant qu'il puisse lever le pouce, il pouvait quand même suivre du regard, il pouvait... Donc il y avait quand même des choses qui passaient dans son regard. Voilà. Donc au bout de 2 mois en réanimation, il est parti en rééducation à Sainte-Foy-l'Argentière, dans un centre de rééducation. Et là, on nous a dit que ça allait être très très long. Hein. De toute façon, le médecin disait, moi j'allais le voir tous les après-midi, j'avais réduit mon temps de travail, donc j'étais architecte d'intérieur à Firminy, à côté de Saint-Étienne. Donc tous les matins je bossais, l'après-midi j'allais le voir et sans savoir s'il allait être vivant ou pas quoi. Le pronostic vital était engagé sur quand même plusieurs mois. Mais voilà, au bout de 2 mois, quand il s'est réveillé du coma, ils m'ont dit bon ben maintenant on ne sait pas s'il sera possi relationnel toute sa vie, donc un peu végétatif, ou s'il va pouvoir communiquer avec vous. Voilà, vous pouvez rien me dire. Donc il a fallu très vite que je me réajuste parce que moi j'avais donc 25 ans, Cédric 30. Et moi, à 25 ans, je faisais que vivre une vie à 100 à l'heure. On sortait, on faisait plein de trucs et j'étais rarement dans l'instant présent. On se projetait, on avait voilà, une vie qui commençait à deux. Et donc, il a fallu très vite que je me réaxe en m'obligeant à vivre l'instant présent, à être présent aux côtés de mon mari, à essayer de voir les victoires qu'il y remportait, à arrêter d'être dans le passé et de me projeter dans l'avenir. Voilà, arrêter de regretter ce qu'il était avant et arrêter d'imaginer ce qu'elle allait être notre vie parce que c'était vite étouffant.
Et sans la sécurisation. Sans la sécurisation, j'ai une vie.
Oui, alors Cédric, il aime bien les jeux de mots. Il dit qu'il n'était pas végétatif, mais il est végétarien. Voilà, c'est ça. Voilà, bon. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, Cédric, pendant qu'il commençait à progresser, moi, je vivais de mon côté une révolte forte au départ et avec 3 options possibles. Je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'un dieu d'amour il puisse permettre ça. Donc, c'est soit je me suis gourée sur toute la ligne, Dieu n'existe pas, il n'existe pas et on est soumis aux aléas du hasard. Soit il existe, mais il ne nous aime pas, parce que sinon il n'aurait pas permis ce genre de choses. Soit il existe, il nous aime, et même si je ne comprends pas tout, je le comprendrai au fur et à mesure. Et j'ai eu comme une petite voix qui me disait, aie confiance, tu comprendras, tout ça est cohérent. Parce que déjà, la première option, Dieu n'existe pas, moi, avec le cours de philo, bon, déjà, ce que j'avais vécu avec ma conversion, là, cette rencontre avec ce prêtre, avec tout ce qui s'était passé dans ma vie, je voyais bien combien Dieu pouvait intervenir parfois dans ma vie, et pacifier les choses, les simplifier, résoudre des soucis, ben voilà. Et puis même dans ma sensibilité, j'avais vraiment eu des grands moments de grâce que j'avais vécu petite, et pour moi, c'était sûr que Dieu existait. Et puis le cours de philo appuyait ça, hein, le fait qu'on n'était pas né du hasard, qu'il y avait un ordre vraiment immanent aux choses, et qu'une intelligence visible dans le réel qui nous entoure. Donc balayer la première option, la deuxième qu'il existait, mais qu'il ne nous aimait pas. Là, c'est en étudiant la vie du Christ, je voyais vraiment combien c'était la voie du bonheur et du salut pour le monde, hein, cette loi basée sur l'amour, tout son discours. Il se disait fils de Dieu, et Dieu, moi, je n'imaginais pas un Dieu qui nous crée, qui fasse de si belles fleurs, de si beaux paysages, de si beaux couchers de soleil, et qu'il ne soit pas une puissance d'amour, ce n'était pas possible. Et puis qu'il soit si éloigné de ce que je découvrais à ce moment-là, c'est-à-dire que toute l'amitié et l'affection de nos amis était un moteur pour moi, mais extraordinaire. C'est-à-dire que j'étais vraiment assoiffée de ça, alors qu'avant j'étais rassasiée et je ne faisais pas attention. Mais en fait, quand on est au cœur de l'épreuve et qu'on reçoit un bouquet de fleurs, moi des fois j'avais un petit croissant sur mon paillasson, j'avais un petit mot, je voyais combien ça me remplissait d'énergie. Je me dis, mais notre Dieu, il peut pas être étranger à ce qui fait pour nous le sel de notre vie, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, l'affection. Donc voilà. Alors du coup, en même temps, je ne comprenais pas pourquoi il permettait ce genre d'épreuve. Et donc au début, je m'étais dit, voilà, aie confiance, avance. Juste un jour après l'autre, voilà, vois les petits progrès de Cédric, concentre-toi là-dessus et tu découvriras voilà, les choses. Et puis il a fallu, et encore une fois, c'est le thème de ce soir, choisir la vie. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien, sur un trottoir en rentrant de l'hôpital, me dire, mais en fait, tu as 2 options. Toi, cet homme, tu l'aimes, tu viens de lui promettre d'être à ses côtés pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin de tes jours. Donc là, on vit peut-être le pire et le meilleur reste à venir. Je peux pas l'abandonner. Enfin, moi, je me voyais pas l'abandonner. J'étais vraiment pleine d'amour pour lui. On était jeunes mariés. Et je me voyais pas le matin dans la glace à me regarder en me disant je vais le confier à ses parents et puis je vais refaire ma vie. C'était pas possible. Donc je me suis dit ben voilà, tu vas rester avec lui, mais Dieu va t'aider pas à pas à vivre de cet amour, voilà. Et moi j'ai été persuadée que bon, déjà d'une part que si je choisissais pas la vie, eh ben j'allais être aigrie, parce que je commençais à voir déjà que le bonheur des autres commençait à m'atteindre. J'avais ma sœur qui était enceinte, j'avais des amis qui commençaient à se marier, qui sont mêlées enceintes les unes après les autres. Et je me dis, c'est soit je prends ce bonheur contre moi et je, voilà, je me rabougris, je deviens malheureuse, soit je l'accueille comme un bonheur offert au monde et que moi je fais partie du monde et que je suis heureuse de ce bonheur, même s'il ne touche pas à moi directement, il touche mon ami. Eh ben, je l'accueille comme un cadeau de Dieu. Et puis surtout, voilà, je choisis d'être heureuse. On n'a qu'une vie, donc il va falloir que je mette les choses en place pour que cette vie, elle soit belle. Et je sentais bien que sans espérance et sans cette confiance, on allait vivre très, très petitement l'un sur l'autre et qu'on n'allait rien faire de grand. Et en même temps, je me savais très sensible, un peu fragile et tout, parce que voilà, moi, je suis ici d'une fratrie de trois et j'étais toujours la petite sensible des trois qui embêtait tout le monde parce que, voilà, je pleurais pour un rien, j'étais... Et donc, je me suis dit vraiment, mets ta confiance en Dieu. Ça a été vraiment un choix. Et en fait, très vite, les amis de Cédric déjà étaient très présents. Ils ont fait des chapelets pour Cédric, des messes. Il y a eu, vraiment, on a été soutenus spirituellement. La famille de Cédric aussi, ouais. Sa maman.
C'est une amie proche.
Et c'est des amis proches qui avaient suivi aussi le cours de philo, qui s'étaient convertis récemment. Donc, vous étiez dans le même chemin. Et puis la maman Cédric m'a aussi beaucoup aidée. C'est devenu vraiment une amie. Voilà. Donc, je suis passée par la colère, la révolte. Après, j'ai fait le choix de chasser cette révolte pour grandir et avoir une vie heureuse. Mais alors, vraiment soudée à Dieu, il a fallu que j'identifie par quels moyens j'allais pouvoir bénéficier de cette grâce qui allait m'aider. Donc, la fréquence des sacrements, j'ai vu très vite que voilà, si je pouvais aller à la messe, faire des temps d'adoration, des confessions, ça allait m'aider. M'appuyer aussi sur la prière des autres. Moi, je me souviens que j'étais épuisée à chaque fin de journée entre le boulot et puis les visites à l'hôpital. Mais le soir, j'arrivais chez moi, je m'écroulais, j'avais un sommeil hyper réparateur. J'ai jamais eu de problème de sommeil, vraiment. Je sentais que Dieu me portait, voilà. Et donc, Cédric, au réveil du coma, a commencé à lever le pouce. Et alors, juste avant de parler de ça, donc cette petite image, elle est tirée de « Cessons d'être gentils, soyons vrais ». C'est un livre de Thomas Dansbourg, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai trouvé super. Donc, nous n'avons pas toujours du pouvoir sur ce qui nous arrive, mais nous avons toujours du pouvoir sur notre façon d'accueillir ce qui nous arrive. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été aussi un mantra de me dire, voilà, tu n'as pas choisi d'être l'épouse d'une personne handicapée. C'est vrai qu'il n'a pas choisi d'être hémiplégique, handicapée maintenant. Mais par contre, on peut en faire ce que l'on aura choisi d'en faire. Voilà. Donc ça a été important, ce tournant. Et donc, Cédric a commencé à lever le pouce. Et donc, je lui ai fait défiler l'alphabet. Et là, la première phrase qu'il m'a dictée, donc ça a duré 1h30 parce qu'il n'était pas très concis, il était très littéraire, donc il m'a fait des longues phrases. Et sa phrase, c'était « Cher Monsieur Porte, et oui, puisque c'est à vous que ce mot s'adresse, rien qu'à vous, vous sans qui ?» Et puis là, on n'en pouvait plus tous les deux. Et en fait, ce Monsieur Porte, c'était celui qui avait écrit le cours de philo. Et donc, j'ai été très heureuse de voir que Cédric, du coup, avait conservé sa foi et que pour lui, c'était un élément important dans sa guérison. Et ensuite, il a commencé à progresser un peu plus, à prendre... déjà, il m'a dicté plein de mots, donc il me disait... Il faut appeler Jésus, moi je l'appelle 1000 fois par jour et ça marche. Il me disait, je sens que les communautés prient pour moi, parce qu'on avait des communautés qui priaient, on avait plein de témoignages de ça. Et il disait, Dieu me porte, je le sens. Donc ça, c'était important, surtout qu'il avait effacé les 8 mois avant l'accident. C'était la mémoire à moyen terme qui avait été complètement effacée par les hématomes. Donc comment c'était marié 8 mois avant, il me demandait un mariage tous les matins, il ne se souvenait pas. Il voulait me présenter à ses parents, tout ça.
Ma première.
C'était pas l'infirmière à qui tu demandais le mariage. J'ai eu de la chance. Ouais. Mais voilà. Par contre, il se souvenait de sa conversion. Donc, il a communiqué 3 mois après l'accident avec ce pouce. Et puis ensuite, il a parlé que 1 an après. Voilà. Et alors, pendant toute cette année de rééducation, il y avait à Saint-Étienne une petite communauté d'Italiens. Là, il y avait un père qui s'appelait le père Gallo. Et il me disait, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a permis cette épreuve, mais c'est normal. Nous ne pouvons en connaître les raisons. Personne. Tout ce que vous devez faire, c'est sa volonté. Vous y arriverez. Et la force, vous la trouverez en Dieu. C'est lui qui vous donnera la force pour vous battre, fonder une famille, prier. Voilà, donc là, j'ai compris aussi que la prière, ce n'est pas qu'une case à cocher quand on a une bonne catho. C'était un petit peu l'idée que j'en avais avant. C'était un peu pénible, fallait que je le fasse. Là, j'ai vraiment compris que c'était la respiration qui allait me permettre d'avancer. Voilà, donc là, ce prêtre m'a beaucoup aidé. Il y avait aussi un moine, celui qui avait baptisé Cédric, qui nous disait « Chaque soir, méditez les joies de votre foyer. Le mal ne fait pas grandir, la contemplation du mal ne fait pas grandir, mais la contemplation du bien fait grandir. » Donc, voilà, il faut bien sûr pas faire l'autruche, hein, régler les problèmes quand ils arrivent, mais voilà, se concentrer sur les joies du foyer et puis brider son imagination. Voilà, en tout cas, c'était pour moi parce que voilà, je sentais bien que si je me projetais trop loin, j'étais complètement écrasée par la montagne qui me semblait infranchissable. Et donc, vraiment, voilà, regarder mes chaussures de marche, mon petit chemin, jour après jour, et ça suffisait bien. Voilà, donc dans notre entourage, il y a eu quand même des gens qui ont réagi de façon différente. Hein. Il y a eu des gens qui ont beaucoup projeté leurs angoisses sur nous. Et là, il a fallu que je coupe les ponts avec certaines personnes de ma famille pour qui c'était trop lourd. Et moi, j'étais vraiment dans le combat pour essayer d'être enjouée, joyeuse auprès de Cédric, être positive. Et donc, ceux qui me tiraient vers le bas, je pouvais pas. Donc, ça, il a fallu aussi que je fasse un peu le tri. Aussi toutes les personnes dans le milieu hospitalier qui me disaient mais c'est plus votre mari, vous avez épousé un homme, là il est différent avec le traumatisme crânien, sa personnalité va changer, donc vous avez tout à fait le droit de partir, et d'ailleurs on vous le conseille. Une assistante sociale qui m'avait dit voilà, vous pouvez refaire votre vie, vous avez 25 ans. Bon, non, surtout ma fille. Hein. Ouais, je repasse ma vie avec elle. Voilà, donc il a fallu que je leur explique, parce qu'ils pensaient que je faisais l'autruche, en fait, à l'hôpital. Parce que la première année de notre mariage, le premier anniversaire, on l'a fêté à l'hôpital, dans la salle d'attente. Donc, avec tous les copains, il y avait de la musique, du champagne, des fleurs. Et je revois les médecins au fond qui faisaient signe de dire, mais ils débloquent complètement, ils ne se rendent pas compte, quoi. Et donc, j'ai été convoquée le lendemain chez l'assistante sociale qui m'a dit, écoutez, il faut vraiment que je vous explique à quelle vie vous allez vous exposer si vous restez avec lui. Hein, ça va être un handicapé lourd. Vous allez peut-être plus avoir d'amis. La famille, elle va s'éloigner comme les amis, vont se fatiguer. Vous n'aurez peut-être pas d'enfants. Voilà. Et donc, moi, je lui ai expliqué qu'en fait, si on était... que tous les deux dans l'histoire, en effet, peut-être que ça demanderait réflexion, parce que j'étais pas sûre de mes forces, mais qu'en fait, on était trois, qu'il y avait le Seigneur, et que moi, j'avais vraiment, autant j'avais pas forcément confiance en mes ressources, mais j'avais confiance en sa puissance, et que j'étais sûre qu'il allait pas nous abandonner. Donc là, elle s'est dit, ouais, c'est une illuminée, je vais arrêter d'insister, donc elle m'a fichu la paix. Voilà. Et donc, il a fallu, voilà, par ce cours philo qui m'a aussi beaucoup aidée, que je me redise chaque matin que Cédric est Cédric. En philo, Aristote, il parle de substance et accident, c'est-à-dire ce qui fait la substance, c'est ce qui fait l'être, ce qui porte l'être. C'est-à-dire que bah, voilà, ces lunettes, la substance, c'est lunettes, c'est le concept lunettes. Et puis après, les accidents, c'est qu'elles soient noires ou voilà, c'est les aspects extérieurs. Et pour un être humain, c'est pareil. Je me dis, j'ai épousé Cédric, ce corps, même s'il est changé, c'est encore Cédric. C'est vrai qu'il n'est pas mort, il n'est pas ailleurs. Donc, voilà. Il a fallu aussi que je réfléchisse à ce qui fait que j'avais choisi Cédric un an avant et voir au fur et à mesure de son réveil ce qui était commun avec le Cédric que j'avais épousé. Et il y avait heureusement beaucoup de choses de commun au fur et à mesure que les progrès sont arrivés. Voilà. Voilà. Alors ensuite, à un moment donné, quand même, Cédric, en s'éveillant de plus en plus, il voit toutes ses limites. Donc le moral en prend un coup. Un matin, un après-midi, je viens le voir en rééducation. Et là, je le vois attaché à son lit, complètement drogué. Et les infirmières me disent, ben écoutez, il a donné des signes qu'il voulait en finir. Donc on l'a attaché, on lui a donné un anxiolytique et voilà. Et donc là, ça a été le coup de massue, parce que je me suis dit, autant je peux me battre avec lui s'il en veut, mais s'il a des idées noires, ça va être compliqué. Donc j'ai attendu qu'il se réveille, et là, il se réveille, il m'explique qu'il en a marre d'être comme ça, qu'il va m'offrir une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'il va être un poids, voilà, enfin, il a beaucoup pleuré. Et donc, moi, je lui ai expliqué que je comprenais, bien sûr, sa détresse, que moi, de toute façon, je l'aimais, même comme ça, et que si je l'aimais, et donc je lui dis, est-ce que toi tu m'aimes encore? Et donc lui, il m'a dit, oui, je t'aime. Je lui dis, bah, écoute, tu vas t'appuyer sur cet amour pour essayer de me faire une belle vie, et moi, je vais essayer de m'appuyer sur l'amour que j'ai pour toi pour te faire une belle vie. Et l'idée de décentrer le combat et de voilà, travailler chaque jour à ce que l'autre puisse être heureux, sourire, voilà, quitter la chambre en étant sûr qu'à un moment donné, on aura rigolé ensemble, je lui aurais redonné le courage d'avancer et que lui aussi, voilà, ça allait nous permettre d'avancer jour après jour. L'idée voilà, de puiser dans cet amour, ça nous a aidés. Et des fois, quand cet amour tarissait, parce que des fois, c'est compliqué de s'occuper d'une personne handicapée, et puis même moi, j'ai mes travers, donc ça, c'est compliqué, des fois, vous m'aimez toujours. Et ben, à chaque fois, j'ai demandé au bon Dieu de me redonner cet amour à donner, il m'a toujours répondu. Donc, je pense que c'est aussi important de se dire qu'on n'est qu'un canal, en fait, entre le bon Dieu et les créatures qui nous entourent, et que, voilà, Dieu peut pas dire non à une demande d'aimer mieux. Voilà. Et surtout que je me suis aperçue que si je m'appuyais que sur le devoir, le fait que j'avais signé, que, voilà, que c'était mon engagement et qu'il fallait que je tienne en serrant les dents, j'allais pas être heureuse et c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que le bon Dieu voulait. Donc vraiment, il était très important que cet amour, il circule, il soit renouvelé, il soit là. Donc c'était pas que des prières, c'était aussi des événements, voilà, à créer ensemble, des visites. Moi, Cédric, au fur et à mesure de son éveil, eh ben, de nouveau, il a vibré pour les mêmes œuvres que moi. Voilà, on passe du temps dans les musées, dans des concerts musicaux, voilà. Ouais, on sait, on a identifié ce qui nous nourrit et ce qui est commun voilà, à nous deux et ça nourrit aussi notre amour. Donc voilà, on essaye de faire des petits voyages ensemble, comme tous les couples, hein, et de vivre de belles choses ensemble.
Okay.
Des petits et longs voyages. Ouais. Voilà. Et puis aussi une chose. Alors. Ouais, juste avant de vous parler de ce poème, donc c'est le premier poème que Cédric a écrit quand il a pu tenir un stylo, juste après son coma. Ouais, bah, je vais vous le lire déjà. Donc ça s'appelle Joie. Pourquoi vouloir un plus à ce qu'on me propose? Pourquoi bouder l'épine, ne vouloir que la rose? Si la réalité n'est douce ni heureuse, à vouloir la cacher, je la rends ténébreuse. Oh, certes, l'accepter semble vœu l'idée pieuse, mais pourquoi donc lutter si je ne peux la changer? Seule la réalité peut tout à fait combler et mener sans tromper vers des jours apaisés. Pourquoi vouloir un plus à ce qu'on me propose? Pourquoi bouder l'épine, ne vouloir que la rose? Voilà, donc l'idée c'est que voilà, Cédric a toujours vu la vie comme un package avec des choses heureuses, des choses moins heureuses, mais l'épine, elle fait partie du lot. Des vies sans souffrance, sans épreuve, il n'y en a pas. Et voilà. Donc, c'est très important de voir la rose vraiment, chaque jour, parce qu'elle est souvent là. Voilà. Il y a eu un autre tournant aussi pour moi qui a été très important. C'est quelques années après, quelques mois après l'accident. Donc, on avait des congés thérapeutiques quand il était en centre de rééducation, c'est-à-dire qu'il passait un week-end à la maison. Bon, notre maison n'était pas vraiment accessible au fauteuil roulant. Puis à l'époque, il était en fauteuil électrique. Il avait plein d'appareils, puisque donc il avait une gastrostomie, donc il était nourri par un tube dans l'estomac. Il avait une trachéotomie, il aspirait par la gorge là. Non, mais là c'est une mineure, ça n'a rien à voir. Et puis il avait un truc pour soutenir la tête. Enfin voilà, puis il restait très souvent allongé longtemps. Et donc on lui donnait la béquille parce qu'il est la main droite se levait pas jusqu'à la bouche. Bon. Et donc, il était dans cet état-là. On était chez ses parents, dans une maison au milieu de la forêt. Et puis, ce jour-là, il y avait des jours où il était très vif. On communiquait par regard, par des mots. Puis, des fois, il était complètement éteint. Et ce jour-là, il était vraiment éteint. Je lui donnais à manger. Et puis, j'ai croisé son regard éteint. Et il y a eu comme une chape de plomb qui m'est tombée dessus et une phrase qui me disait « Tu seras garde malade toute ta vie ». Et là, j'ai commencé à étouffer, suffoquer, à me dire, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc, j'ai tout lâché, je suis partie dans la forêt, crier ma rage au bon Dieu, expliquer que je comprenais pas qu'il soit si haut, qu'il vienne pas nous voir, plus nous rassurer, répondre vraiment à nos questions de manière intelligible. Bon, et bien sûr, il est pas venu me répondre. Donc, du coup, j'ai pris ma voiture, je les ai tous plantés, donc il était avec ses parents, hein. Et je suis allée voir ce monsieur Porte. Je me suis dit, bon, lui, il a étudié tellement de courants philosophiques, il a sûrement des réponses à toutes mes questions. Et donc, c'était 2 heures de route. J'ai pleuré comme jamais. J'ai pleuré de ma vie. Et j'arrive là-bas en me disant, mais il aura peut-être pas de réponse à mes questions. Et donc, ça va être affreux s'il a aucune réponse. Et en fait, j'arrive là-bas et au lieu de voir Monsieur Porte, je vois Nathalie, une ancienne élève du cours qui venait de se convertir aussi. Et qui simplement me voit me prendre dans ses bras et me dit, Sophie, ne pleure pas, tu n'es pas seule. Et ces 5 mots, tu n'es pas seule, ça a explosé cette chape de plomb. Ça a été comme si l'Esprit Saint m'inondait complètement en me disant, comme si le Christ me disait, tu n'es pas seule, je suis là au cœur de l'épreuve, je m'occupe de Cédric. Toi, occupe-toi juste d'avancer, d'être heureuse, de faire ce qui te plaît dans la vie. Et dans ton sillon, Cédric sera heureux. Et voilà, et moi je suis là. Et j'avais comme une vision d'un château fort avec Cédric au milieu et tous ses copains sur les créneaux là, et me dire, mais voilà, autour de toi, t'as des gens qui sont là, qui demandent qu'à t'aider, qu'à t'aimer. Donc appuie-toi là-dessus et puis appuie-toi sur moi, le Christ, pour avancer. Et c'était vraiment une révélation, quelque chose de très fort. Et cette amie Nathalie, je se souviens même pas m'avoir dit ça, mais moi je l'avais consigné sur mon journal intime le soir même. Et d'un coup, ces larmes de désespoir se sont muées en larmes de joie, de reconnaissance pour cet amour que voilà, Dieu déversait en mon cœur à ce moment-là. Et ça a été un vrai tournant. Et là, j'ai vraiment compris qu'il fallait pas que je lui lâche la main, jamais. Voilà. Donc, ensuite, 18 mois après, donc Cédric est revenu à la maison. Enfin, même 1 an après, donc on a déménagé pour avoir une maison accessible. Et là, bon, il avait beaucoup de rééducation, de choses à faire. Moi, j'étais à mi-temps, mais il supportait pas les ambulanciers, il supportait pas les auxiliaires de vie, parce que donc le syndrome frontal faisait qu'il avait des troubles de l'humeur. Bon, maintenant ça s'est calmé, heureusement, mais il pouvait prendre des colères parce que. Soit parce que l'ambulancier lui parlait fort, parce que comme Cédric il parle à voix basse, souvent les gens pensent qu'il est sourd, or qu'il n'y a aucun lien entre le fait qu'il parle de soi et qu'il soit sourd, peut-être. Donc, il y a des gens qui lui hurlent à l'oreille, mais ça c'est les nerfs, ou qui l'infantilisent un peu. Voilà, tout était prétexte à s'énerver, Cédric. Donc voilà. Donc du coup, pas d'auxiliaire de vie, pas d'ambulancier. Moi, je faisais beaucoup de choses. Et ça a duré 5 ans, pratiquement. Donc, on était dans notre maison tous les deux, là, je faisais plein de choses pour lui, on avait une vie sympa avec les copains. Cédric s'était remis à dessiner un peu, puis avec l'ordinateur, il pouvait coloriser ses dessins, donc on avait fait des petites expos. Voilà, enfin, on essayait de lui trouver, faire une vie sympa. Et puis, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, donc ça a duré 5 ans, je m'occupais de lui tout le temps, bah, son humour est revenu, sa réflexion philo est revenue, philosophique, il avait des notions qui revenaient, sa foi était intacte, son amour pour moi intact, toujours un peu, toujours de l'empathie, très poète, et puis sa culture revenait, voilà. Je sentais qu'en fait, un avenir, voilà, était possible avec lui et même avec des enfants. Parce que ça a toujours été notre, rêve, hein. Quand on s'est marié, on voulait 8 enfants, je sais pas pourquoi 8, mais c'était notre chiffre. Et puis après, avec l'accident, on s'est dit, ben, on n'en aura peut-être pas du tout. On avait même fait des démarches pour adopter un chien d'assistance. Et le chien d'assistance, il est arrivé le jour où mon test de grossesse était positif. Alors du coup, l'association l'a repris parce qu'il faut pas d'enfants quand on a un chien d'assistance. Bon, voilà. Mais on regrette pas du tout, hein. On préfère avoir nos enfants. Hein? Et on a un chien en plus. Bon, c'est pas un chien d'assistance, mais. Voilà. Et donc, du coup, on avait un pédiatre à Saint-Étienne qui s'appelait docteur Bossu, qui était plein de bon sens. Il avait 9 enfants, dont 3 enfants porteurs de trisomie 21. Donc, on
Comme
connaissait bien
si,
le handicap.
une bonne chose, vraiment, il pas.
Pourquoi?
Encore.
Non, mais il avait du bon sens et en plus, il avait une famille nombreuse et puis il connaissait le handicap, pour ça que je veux dire. Bon, et donc lui, voilà ce qu'il nous disait. Parce que voilà, donc du coup, on a mis en route notre premier enfant en 2003, donc 5 ans après l'accident, 16 ans. Parce qu'en fait, j'avais identifié 2 choses qui étaient importantes pour moi, c'est que Cédric pouvait transmettre de nouveau tout ce qu'il connaissait et il pouvait aimer inconditionnellement. Moi, je me suis dit, si on peut aimer inconditionnellement et transmettre, on peut être un bon papa. Et donc, ce docteur Bossu nous a reçus pour notre premier enfant, Adrien. Et il nous disait, dès lors que vous devenez parent, vous avez le devoir de ranger toutes les casseroles du passé dans un tiroir et de le fermer. À vos enfants, vous devez l'amour et un cadre éducatif stable et solide. Vos enfants n'auront pas besoin d'un père qui marche, mais d'un père qui les aime inconditionnellement. Vos garçons doivent pouvoir s'identifier à leur père et il va falloir que vous les y aidiez. Ils doivent découvrir en quoi leur papa peut être un modèle pour eux, même s'il n'est pas parfait. Voilà, donc Adrien est arrivé en 2003. On a vu que ça se passait bien. Cédric, on avait adapté la table allongée, tout ça. Et du coup, il pouvait faire pas mal de choses. Et puis, il était très patient avec Adrien. Voilà. Donc, on s'est dit, on va mettre en route le deuxième. Donc, Paul est arrivé 18 mois après. Et puis Juliette, 2 ans après, et Théodore, le petit dernier, 4 ans après Juliette.
Le petit dernier, voilà.
Le petit dernier, c'est relatif, parce qu'il fait 1m85. Voilà. C'est le plus grand. Mais donc, j'ai vite identifié que, selon le regard que je portais sur leur père, ils s'identifiaient beaucoup à moi. Enfin, ils s'identifiaient à leur papa, mais en tout cas, ils adoptaient mon regard. Et que voilà, qu'il fallait que je cultive l'admiration que j'avais pour Cédric pour qu'eux-mêmes soient admiratifs de leur papa. Alors Cédric, par exemple, il faisait des compétitions en e-sport, en tennis de table, et quand il ramenait une coupe, on en faisait des tonnes, on faisait la fête à la maison, on restait hyper fiers de leur papa. On allait le voir faire ses compétitions, voilà. Il a eu des prix en poésie. Là, j'ai ramené un recueil de poésie. Il a eu le prix Verlaine. Donc là, c'est pareil. Les enfants étaient super contents pour lui. Enfin voilà. Donc ça a été vraiment quelque chose à travailler. Et puis ça a bien marché parce que on avait des réflexions rigolotes parce que par exemple, dès qu'il y avait un copain qui arrivait à la maison quand les enfants étaient petits, il le prenait par la main, il disait viens voir mon papa à roulette, il est super gentil, voilà. Adrien, il nous disait moi quand je serai grand dans mon fauteuil roulant, je me raserai comme papa, voilà. Et il croyait qu'en grandissant, on avait forcément fauteuil roulant qui nous poussait. Dessus, voilà. Et puis on essayait de cultiver un peu l'humour pour que tout se passe bien. Par exemple, une fois, il y a une anecdote qui était trop drôle, c'est que pour un anniversaire, je sais plus l'anniversaire de qui, on décide d'aller dans une pizzeria à Saint-Étienne. Il y avait 2 marches d'accès. Donc pour franchir ces 2 marches, il fallait que Cédric il soit en canne. Et quand Cédric est en canne, ça se voit de loin parce qu'il tangue vraiment à gauche, à droite. Donc moi, je le soutiens d'un côté, il lance sa canne tripote de l'autre, donc c'est assez, voilà. C'est pas très discret. C'est vrai, si c'est vrai. Voilà. Et puis là, on était avec nos 4 enfants, on était au seuil de la pizzeria, j'entendais tout le bruit et tout, il y avait de l'ambiance. Je me suis dit, oh là là, on va rentrer dans la pizzeria, on va être dévisagé, c'est sûr, on va pas passer inaperçu. Et donc, pour que les enfants soient pas trop choqués par ça, je leur ai dit, écoutez les enfants, vous allez voir, papa, c'est le roi du silence. Quand il arrive quelque part, tout le monde sait. Et alors Adrien dit, oh, c'est même pas vrai et tout. Et puis donc Adrien nous pousse la porte, on arrive et bien sûr, on avait 80 perdus braqués sur nous, même le serveur s'est arrêté. Et donc on avance et là, il y a une petite voix, il y a Juliette qui doit avoir 3-4 ans, qui nous dit, mais comment il fait, papa? C'est un magicien. Voilà, elle était complètement admirative. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de prendre tout ça avec humour et puis pour que, voilà, que leur papa soit pas un problème. Alors après, c'est sûr qu'en grandissant, on a identifié qu'en 5e, 6e, 5e, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le regard des autres qui est important. Ils veulent faire partie un peu du troupeau et pas être à part. Donc, ils avaient plus de mal à se montrer avec leur papa. Mais bon, on a respecté ça, il n'y avait pas de souci. Et puis, de toute façon, au collège, on est moins souvent présents. Voilà. Et puis après, l'adolescence, il y a eu quand même des challenges. Hein. Tout n'a pas été toujours facile parce que Cédric, il ne pouvait pas leur courir après, il ne pouvait pas les prendre en tant qu'ADE. C'était parfois compliqué, même s'ils se comprennent bien. Bon, il reste quand même à voix chuchotée, Cédric. Donc, si l'enfant ne veut pas entendre, il peut ne pas entendre. Et puis, voilà, scrapahuter dans sa chambre. Donc voilà, il y a eu quand même des vrais challenges, mais on est arrivé. Et puis, là, on en a encore un dans l'adolescence, il a 15 ans, Théodore, mais les autres, ils sont jeunes adultes et ça va très bien. Voilà, enfin, en tout cas, ils n'ont pas de soucis avec leur papa, ils sont très attachés à lui et ils ont des très bons rapports.
Beaucoup.
Vous écrivez beaucoup, souvent par les mails, parce que c'est plus facile qu'à l'oral, et puis ils sont tous loin, ils font leurs études, Paris, Montpellier, un peu partout. Donc voilà, ils ont une belle communication. Voilà, donc après, voilà, je vais peut-être bientôt m'arrêter. Voilà, c'était important aussi d'identifier nos besoins respectifs, hein. Moi, j'essaye 2 fois par an de m'échapper un peu. Donc là, comme maintenant je suis sculpteur depuis 5 ans, toutes les expos que je fais, bah, ça me permet de partir, de me ressourcer aussi ailleurs et de revenir, voilà, à bloc, remonter. Enfin, voilà, une meilleure humeur et puis en bonne disposition. Cédric aussi, parfois, il fait des choses avec ses copains. Là, il est parti 3 jours dans un monastère. C'est vraiment content. Des fois, ils font des randonnées avec une joëlette. Là, c'est une chaise à porteur avec une roue. Enfin, voilà. Du coup, on a identifié qu'on avait be besoin aussi l'un et l'autre de vivre des choses loin l'un de l'autre. Parce que moi, je suis à mon compte et mon atelier est dans le jardin. Donc, c'est quand même pas très loin de la maison. Voilà. Et Cédric, il a quand même une vie à l'extérieur. Hein. Chaque semaine, il sort au moins 3, 4 fois avec le système Optibus qui lui permet d'aller à gauche, à droite. Et il fréquente beaucoup l'association Simon de Sirène, qui propose pas mal d'activités. Voilà. Donc là, c'est une illustration juste pour expliquer que voilà, ma posture de victime ne me rend pas heureuse, ne rend pas mes proches heureux et ne sert pas le monde. Voilà 3 bonnes raisons pour apprendre à changer. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on se sent victime et c'est bon de l'exprimer, mais se complaire là-dedans sur le long terme, enfin nous, en tout cas, on est sûr que ça ne nous aurait pas aidé du tout. Donc on a essayé de se tourner vers toutes ces activités, voilà, et de sortir de cette posture. Donc ça, c'est aussi tiré de cessons d'être gentils, soyons vrais. Voilà, et ça, c'est une petite illustration pour montrer que le handicap, c'est une chose, mais la plupart des souffrances des personnes handicapées, en tout cas celles que côtoie Cédric à Simon de Sirène, c'est surtout l'isolement. Voilà. Et donc, il faut vraiment de créer du lien, comme cette association Simon de Sirène fait, c'est vraiment vital et essentiel. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres petites choses, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, c'est un petit peu les phrases qui m'ont aidé voilà, à tenir. C'est-à-dire, j'avais un ami qui me disait toujours, tu ne tiens pas l'avenir. Donc voilà, là, c'est sur l'idée de rester sur le court terme, se concentrer sur la journée, sur la semaine et pas se projeter dans 20 ans. Fais ce que tu dois et sois ce que tu fais. Ça, c'est Saint José Maria qui écrivait ça dans un petit livre qui s'appelle Chemin et qui nous a bien aidés parce que c'est des petites phrases très courtes, très concrètes. Et Cédric avait du mal à lire des longs textes. Voilà, ça l'a beaucoup aidé. Et fais ce que tu dois et sois ce que tu fais. C'était très important parce que moi, à 25 ans, j'avais une tonne de paperasse à faire. J'avais donc Cédric à m'occuper, des rendez-vous médicaux. J'étais vite submergée. Et de se dire, allez, concentre-toi, sois présent, fais les choses lentement et fais-les à fond, ça m'a beaucoup aidé. Contemple le bien qui fait grandir, pas le mal. Abandonne les combats stériles, accepte ce que tu ne peux pas changer. Donc ça, c'est la prière de Reinhold de Niebuhr. Je vais quand même vous la lire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà, elle est connue cette prière, mais moi, elle m'a énormément aidée. Identifie tes espaces de ressourcement, donc ça on l'a dit, apprendre à bien se connaître et voir ce qui nous fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai aussi changé de métier, que je suis plus architecte d'intérieur, même si c'était un métier que j'aimais bien, mais bon, il y a quand même pas mal de pression. Et quand notre quatrième enfant est arrivé, donc j'ai choisi de me lancer dans la sculpture, et là c'est vraiment un espace de récréation, de recréation extraordinaire. D'ailleurs, je vous ai apporté, si ça vous intéresse, de feuilleter un petit catalogue, parce que dans mes sculptures, je parle beaucoup d'espérance, de confiance. Voilà, il y a toujours un petit oiseau sur mes sculptures, donc voilà, qui est cette petite voix intérieure qui nous exhorte à ne pas avoir peur à avancer, l'audace. Voilà. Reste au bord de la piscine, ça c'est l'idée de ne pas plonger dans le désespoir de Cédric et avoir une certaine distance pour pouvoir l'aider. Fais équipe avec Cédric contre ce handicap, pas contre lui. Ça, c'est ce que je dis souvent aux enfants. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être énervé contre les handicaps, hein, parce que c'est frustrant, mais on est dans la même équipe avec papa contre ses handicaps, parce que papa aussi, il n'aime pas ses handicaps. Et voilà. Donc, l'idée de ne pas en vouloir à Cédric, mais plutôt cibler le handicap. Sois actrice de ta vie, ne te pose pas en victime. Tu n'as qu'une vie, puise ta force en Dieu. Je me battrai pour toi, tu te battras pour moi et tu n'es pas seul. Voilà, c'est vraiment les grandes idées qui m'ont aidé. Et on peut terminer peut-être par un poème. Et puis après, on posera des questions si vous avez envie. Donc, c'est un poème de Cédric qu'il a écrit peu de temps après le poème Joie et qui s'appelle Courir, parce que donc c'est un grand sportif. Et il explique dans ce poème comment il court maintenant. Je voudrais tant, ô souvenir, juste un matin pouvoir courir, passer les plaines et les bosses, à perdre haleine en bond de gosse, et dans mes veines le flot féroce du sang qui draine ainsi mes forces. Être un matin en me levant tout droit, debout, enfin tout grand. Debout, c'est tout, mais comme avant. De vifs élans, vifs, véloces, bondir bien, pas de géant, fendre la bise, prendre le vent, ouvrir des ailes tout grand, tout grand. Et c'est là que c'est très beau. J'ai décidé de lever l'ancre, d'enfin voguer vers l'inconnu, courir, courir, à perdre haleine, le pied rapide et l'âme pleine.